Radio Barque, alors pour cette troisième partie, on va parler un peu plus de vous, Sandy Quercy. Alors Quercy, c'est votre nom de jeune fille, mais Madame Lafont également aujourd'hui. Donc, revenons un petit peu au début. On a vu la rencontre, ce qui a motivé cette rencontre avec la romancière Marie Bardet. Mais au démarrage, vous, vous êtes une rescapée dans le baby-lift du fameux crash.
Oui, du premier, ce premier avion en fait. Hein, c'est le premier avion qui.
C'était le tout premier.
Oui, donc ça commençait mal.
Ça commençait mal.
Ça commençait mal, donc oui, voilà. Donc moi, du coup, je suis arrivée en France. Enfin, mes parents sont venus me chercher, donc à Paris, j'avais 8 mois.
Et vous êtes, paraît-il, passée par l'Amérique.
Oui, 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 parce qu'en fait, donc il y a eu l'accident. Bon, donc c'est, enfin, faut imaginer le contexte, quoi. Enfin, c'est l'affolement général, cet avion qui s'écrase avec pratiquement que des enfants dedans.
Et beaucoup de morts, peu de survivants.
Oui, très peu de survivants, beaucoup d'enfants aussi qui blessés. Enfin, et donc du coup, en fait, on a été pris en charge par l'avion qui d'après, donc, est parti vers les États-Unis. Et du coup, je me suis retrouvée à San Francisco. Avec d'autres enfants survivants. Et moi, j'avais la chance, j'avais un petit bracelet, en fait, en plastique, là, des petits bracelets qu'on peut pas enlever là, quand on a la maternité, où il y avait marqué dans mon nom Quercy, France. Hein, et voilà. Et mon père, donc mon père de son côté, bon, voilà, mes parents adoptifs, c'était terrible. Ils m'avaient jamais vu. On leur dit que l'avion s'est écrasé. Donc, enfin, voilà, il y a eu un moment forcément de... Voilà, terrible quoi pour eux. Mon père a eu l'idée d'appeler l'AFP, donc l'agence de presse, parce que bon, des journalistes sont venus voilà sur les lieux.
À San Francisco, non, à Saigon.
Vietnam, à Saigon. Et donc du coup, on leur a dit, mais il y a des enfants qui s'en sont sortis. Donc voilà, c'était la grosse surprise pour mes parents. Enfin voilà, c'était vraiment un ascenseur émotionnel, je vous laisse imaginer. Et voilà, et donc du coup, moi j'ai fait partie de ces enfants, donc on était rapatriés, donc et je me suis retrouvée aux États-Unis. Et ensuite, quelqu'un donc de l'association est venu nous chercher et voilà, et je suis arrivée à Paris.
Oui, donc vos parents adoptifs vous ont rencontré à Paris.
À Paris.
Vous accueillez, ouais, à Paris. Ouais. Et alors le prénom français qu'on vous a donné, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un hasard ou est-ce qu'il y a une raison ?
Alors, mon dossier d'adoption dont parlait Marie est très très maigre. Hein. J'ai vraiment très très peu d'éléments. J'ai par contre le papier, en fait, on va dire, il y avait une lettre type qui était faite dans les orphelinats. Donc, c'était la directrice de l'orphelinat qui faisait un papier comme quoi j'étais née de parents inconnus, que mes parents n'étaient jamais venus me rendre visite. Enfin, c'était un papier qui légitimait l'adoption, qui, pour eux, voilà. Et sur ce papier, il y a marqué un nom vietnamien, forcément. Donc, il y a marqué San Tri Phung. Voilà, donc, San Chai, ça se dit en vietnamien. Et donc du coup ça serait mon prénom vietnamien, et donc du coup mes parents ont cherché un prénom qui ressemblait un petit peu, on va dire, phonétiquement à Sanchi, et voilà, ils m'ont appelé Sandy.
Ah, c'est ça qui les a inspirés.
Voilà.
Et vous n'êtes pas métisse, vous êtes vietnamienne d'origine.
Non, je suis pas métisse. Alors bon, pour en être sûr, en fait, j'ai fait dernièrement des tests ADN justement pour voilà, dans mes recherches, c'est l'étape essentielle, c'est à un moment donné, c'est de faire des tests ADN, et voilà, ça a bien confirmé que j'étais pas métisse.
On va revenir justement à un moment sur le moment où vous avez envie d'en savoir plus sur votre passé. Mais maintenant, vous arrivez à Narbonne, donc toute petite, vous aviez quelques mois.
Oui, j'avais 8 mois.
8 mois, oui. Oui, donc véritablement. Et donc, c'est pratiquement comme si vous étiez née à Narbonne, vous avez fait toute votre enfance.
Ah, ben oui, je ressemble scolarité, pas, mais je suis une vraie Narbonnaise.
Scolarité à Narbonne, je crois.
Oui. J'étais à Victor Hugo, enfin, j'étais à l'école
Anatole
France, hein, après Victor Hugo, lycée Lacroix, enfin voilà, donc j'ai fait toute.
Un parcours typique voilà. d'une Narbonnaise moyenne.
Narbonnaise type, c'est ça.
Voilà. Mais justement, alors que vous êtes d'origine vietnamienne, évidemment, ça se voit. Donc, la question qu'on pose toujours, c'est est-ce que vous avez été victime de racisme, soit latent, soit plus expressif, plus exprimé, plus agressif peut-être.
Alors, racisme, c'est vrai que le mot est un peu fort. Enfin, disons que j'ai souffert de la différence, c'est ça. Parce que quand j'étais à l'école, bon, surtout, bah, à l'époque, moi, j'ai, voilà, il y a 47 ans, en Narbonne, il y avait très très peu de personnes d'origine asiatique. C'est-à-dire qu'à l'école maternelle, j'étais la seule asiatique, à l'école primaire aussi, au collège, je crois qu'on y était deux. Enfin, non, voilà, donc forcément, les enfants sont durs entre eux, parce que quand ils voyaient ma mère ou mon père venir me chercher à l'école, donc voilà, mon père a les yeux bleus, ma mère était blonde, donc... me disait, mais toi, t'es une enfant trouvée, c'est pas ta mère. Enfin bon. Alors, heureusement, ma mère avait l'intelligence, en fait, avant de l'école maternelle, de m'expliquer l'adoption. Donc, elle m'avait expliqué que ma vraie mère ne pouvait pas s'occuper de moi, que c'était un acte d'amour. Donc, elle avait vraiment expliqué les choses. Même si j'avais pas forcément tout compris, parce que bon, quand vous avez trois ans, vous comprenez pas tout. Mais en tout cas, bon, voilà, je savais que c'était pas ma mère biologique.
Vous étiez bien mieux préparée de ce point de vue-là.
Oui, à ce plan-là, oui.
Oui. D'emblée, vous avez su que vous étiez, enfin, vous avez su les circonstances de votre arrivée à Narbonne.
Oui. Mais, ça, mes parents, ils m'ont tout expliqué petit.
Et après, donc, il y a l'enfance, et puis après, il y a l'adolescence. Est-ce que les choses, vous avez des souvenirs de comportements différents du fait que vous n'aviez plus le même âge, peut-être?
Ben, c'était toujours quand même un peu de méfiance, un peu de rejet quand même, parce que j'étais trop différente, en plus, bon, physiquement, parce que moi, j'ai pas du tout la culture asiatique, du coup, mais quand même, il y avait quand même cette barrière, donc bon, heureusement que j'ai réussi à avoir des amis, tout ça, mais c'était quand même plus compliqué.
Et sur le plan linguistique, vous arrivez très jeune, donc à un moment où l'appareil phonatoire se forme, et bon, il se forme dans la langue du pays où on est en général.
Oui, alors ça, c'était très marrant, parce qu'en fait, en vietnamien, certains sons n'existent pas du français.
Comme dans toutes les langues.
Voilà, donc par exemple, le son re, ben, ça n'existe pas en vietnamien. La lettre existe, mais elle se prononce pas du tout. Et du coup, quand j'étais petite, donc aucun souci à l'école, enfin, je fais une bonne scolarité, tout ça, mais j'arrivais pas à prononcer le son re. Alors, est-ce que parce que je l'avais pas entendu bébé, sûrement.
Oui, c'est possible.
Et donc, voilà, je me souviens que mon père, il me disait, il me faisait prononcer le mot carotte et tout ça en roulant les airs à fond pour pour m'apprendre le R. Donc, du coup, je parlais un petit peu comme une Marseillaise pendant quelques temps.
Ah oui, on vous faisait rouler les airs.
Oui. Donc, j'étais vraiment l'accent.
Ah bon, on aurait pu penser que vous étiez originaire des Corbières.
C'est ça, non, mais vraiment, enfin, parce que j'avais vraiment du mal à prononcer, comme quoi, il y a quand même, voilà, quand j'ai dû entendre dans le ventre de ma mère, et puis bon, tous les mois où je suis passée au Vietnam, mais quand vous n'entendez pas un son, c'est là justement où
bien
se construit
voilà. L'oreille, enfin l'appareil, ce qu'on appelle en linguistique l'appareil phonatoire, se construit, quoi, véritablement. Et à partir de quel moment vous ressentez le besoin d'en savoir plus?
C'est venu quand j'ai eu mon premier enfant. Donc moi j'étais maman à 24 ans, donc quand j'ai eu mon premier fils Angelo. Et là du coup c'est vrai qu'il y a eu, ça a été vraiment un déclic en fait, parce que jusqu'à présent je me contentais de l'explication. Ma mère m'avait expliqué, voilà, c'était la guerre, ta mère pouvait pas s'occuper de toi, ton père était sûrement mort. Donc moi j'étais restée dans cette idée-là, et puis ça me convenait, on va dire. Et par contre le jour, voilà, où j'ai donné la vie, là je me suis dit, mais il faut quand même que tu comprennes vraiment le pourquoi de l'histoire. Tu peux pas rester là juste sur quelque chose assez général. Si je me suis dit, pour qu'une mère puisse en arriver à laisser son enfant, c'est que vraiment enfin voilà, quoi, il y a quelque chose de terrible qui a dû arriver, et donc c'est là que j'ai commencé mes premières recherches.
Oui, une forte interrogation qui vous a amené au pays d'origine.
Oui. Je suis retournée deux fois, donc c'était très émouvant forcément. Je suis retournée à l'orphelinat, j'ai retrouvé la sœur Fideline, donc la sœur qui avait signé mon papier d'adoption. Enfin voilà, ça a été vraiment un voyage, un retour aux sources.
Et quel était l'accueil des Vietnamiens donc envers des gens comme vous?
Alors, les Vietnamiens ne sont pas très... pas forcément bienveillants, en fait, avec les Viet Q. Les Viet Q, pour les Vietnamiens, ce sont les Vietnamiens qui ont quitté le pays. Donc déjà, il y a la barrière de la langue, parce que, bon,
oui,
forcément... Bon, j'ai essayé d'apprendre le vietnamien, mais honnêtement, je n'arrive pas.
Y a-t-il encore des gens qui parlent français au Vietnam?
Oui, les personnes d'un certain âge.
Oui, les personnes âgées, mais les plus jeunes, non, pas du tout.
Non, les plus jeunes, maintenant, ils n'apprennent plus le français, là, depuis quelques années.
Oui, il y a eu la présence américaine pendant pas mal d'années aussi.
Mais par contre, les Français sont très bien accueillis là-bas, mais les Viet Q, c'est différent. parents parce que ils savent oui. pas pourquoi on est parti. En plus, bon, mon mari n'est pas vietnamien, donc il y a toujours ce regard
ambigu,
un petit peu quoi, ambigu, ouais, c'est ça.
Et vous avez donc visité alors un ou des orphelinats.
Oui, j'avais visité l'orphelinat de Govap, donc c'est mon orphelinat d'origine, et l'orphelinat de Fumi aussi.
Oui, et ça, expliquez-nous le ressenti de Sandy Kersi ou Sandy Kersi Lafont entrant dans un établissement comme ça. Est-ce que vous, il y avait, je sais pas, quelque chose de fort qui vous est tombé dessus?
Ah oui, plus que fort, ouais. oui, ça a été super émouvant.
Oui, sur le plan de l'émotion, ça doit être très fort.
Ah oui, oui, puis en plus, alors la première fois, mon premier voyage, j'avais pas pu rentrer dans l'orphelinat, parce que bon, l'orphelinat au Vietnam, vous avez des militaires qui le gardent devant, donc vous rentrez pas comme ça. Non, la deuxième fois, donc avec mon mari, on avait mieux anticipé le voyage, donc on avait des relations sur place qui ont fait qu'on a pu rentrer. Et du coup, les personnes, par contre, super contentes de me voir, on a échangé, ils nous ont fait visiter la pouponnière, donc voilà, donc très très émouvant. Ouais.
Oui, mais meilleur accueil parce que préparé.
Oui, parce que déjà j'ai pu rentrer, j'ai pu rentrer, mais c'est vrai que c'était, c'était, oui, il n'y a pas de mots en fait.
C'est une expérience unique probablement qui n'est pas transmissible, qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est ça, oui.
Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup Sandy, donc Kersi Lafont, puisque c'est votre nom aujourd'hui, pour ce témoignage très très touchant, donc à la fois une expérience, je le redis, hautement improbable qui se réalise avec cette rencontre entre la romancière Marie Bardet et vous-même, et donc la Narbonnaise Sandy Kersi qui vient nous raconter, nous faire revivre. Merci de ce témoignage.
Mais merci à vous.
Et merci à vous deux. Les prochains Radio Barque, alors on va retomber dans un peu plus du classique au point de vue invité. Je vais recevoir Madame Hélène Sandranier, la présidente du département de l'Aude. Ensuite, Monsieur Malquier, qui est le premier adjoint à la mairie de Narbonne, qui est également secrétaire général du mouvement Nouveau Narbonne. Madame Thivan, une conseillère communautaire et municipale écologiste. Et puis un petit peu plus tard également le sénateur de l'Aude, Sébastien Plat. Merci Marie Bardet, merci Sandy Kersi, merci aux auditeurs d'être restés en notre compagnie et à la semaine prochaine.